Studio Tamani, voici nos informations en français.
Mesdames et messieurs, bonsoir, voici les titres. Un mandat d'arrêt international a été émis hier par Interpol contre Karim Keïta, ancien député et fils de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, dans l'affaire du journaliste Birama Touré, porté disparu depuis 5 ans. La maison de la presse se réjouit de cette nouvelle et espère que lumière sera faite sur cette affaire. Le plan national de réponse à l'insécurité alimentaire vient d'être lancé à Mopti. Plus de 15 000 tonnes de mil et de sorgho seront distribuées à plusieurs milliers de personnes en insécurité alimentaire à Mopti, Bandiagara et Douanza. La synergie 22 des organisations de la société civile entend former et déployer plus de 3 000 observateurs sur le terrain pour les prochaines élections au Mali. Selon ses responsables, l'objectif est de constater et veiller au bon déroulement de chaque phase du processus électoral à venir. À la présentation, Hamsitou Touré, à la technique, Nouhoum Djiré. Un mandat d'arrêt international a été émis hier par l'Organisation internationale de la police criminelle Interpol contre Karim Keïta. Il s'agit bien de l'ancien député et fils de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Interpol a été saisi par un juge d'instruction de la commune 4 de Bamako pour arrêter et transférer Karim Keïta à Bamako. Ce mandat d'arrêt rentre dans le cadre de l'affaire du journaliste Birama Touré porté disparu depuis 5 ans, Juliette Koulibaly.
Les faits remontent à 2016 quand le journaliste d'investigation du journal Le Sphinx, Birama Touré, a été déclaré disparu dans des conditions non élucidées. Depuis cette date, ce dernier reste introuvable. À l'époque, sa famille et son directeur de publication, M. Adama Dramé, disaient craindre qu'il soit enlevé, torturé et tué après plusieurs mois de détention. En 2018, le directeur du Sphinx était revenu avec plus de précision sur le contexte de sa disparition. Il affirmait que son reporter avait pris contact avec Karim Keïta à disparition. C'était à propos d'un dossier jugé compromettant pour le fils du président de l'époque. Il faut souligner que Karim Keïta a toujours clamé son innocence dans cette affaire. Il avait été convoqué par la justice malienne en 2019, mais avec son immunité parlementaire, il n'a pas répondu à la convocation. « Je suis blanc comme neige », avait-il déclaré à cette période. Environ 2 ans après, la justice malienne estime aujourd'hui qu'il y a des éléments nouveaux qui nécessitent qu'ils soient entendus de gré ou de force. Pour rappel, l'ancien député de la commune 2 du district de Bamako est réfugié en Côte d'Ivoire depuis le putsch du 18 août 2020.
La maison de la presse du Mali dit se réjouir de la nouvelle. Ses responsables espèrent que lumière sera faite sur cette affaire. Écoutons Bandiougou Danté, président de la maison de la presse du Mali.
Depuis près de 6 ans, Birama Touré a disparu. Et nous avons toujours demandé à ce que la lumière soit faite sur cette triste affaire. Maintenant que la justice malienne ait ordonné un mandat d'arrêt international contre l'ancien député Karim Keïta, nous pensons que ça c'est une très bonne chose, parce que c'est l'occasion pour Karim également de venir s'expliquer, parce qu'il a longtemps clamé son innocence. Nous sommes beaucoup de Maliens, un doigt accusateur est porté sur lui, alors c'est à lui de venir dire sa part de vérité, que ce ne soit pas un effet d'annonce, que la justice aille au bout de sa logique, que cette affaire soit bien traitée et que cette affaire continue jusqu'à ce que justice soit rendue, jusqu'à ce que la vérité soit connue.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Comme annoncé dans les titres, le plan national de réponse à l'insécurité alimentaire a été lancé ce matin à Mopti. C'était en présence du président de la transition. Il s'agit de son premier déplacement en tant que chef de l'État depuis son investiture. Colonel Assimi Goïta a prévu de profiter de cette occasion pour échanger avec les autorités régionales de Mopti sur la sécurité des personnes et de leurs biens. Les détails avec Idrissa Sako.
Le président de la transition, accompagné d'une forte délégation, a été accueilli ce mardi dans la ville de Mopti. colonel Assimi Goïta a laissé entendre que le choix de Mopti s'explique par la situation sécuritaire préoccupante dans la région et la place du centre dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Dans son discours, le président Goïta a déclaré que c'est normal d'apporter de l'aide alimentaire aux populations affectées par la crise multidimensionnelle. Le chef de l'État a annoncé que cela va continuer dans d'autres localités du pays. Au total, 43 000 tonnes de céréales, riz, mil et sorgho seront distribuées à la faveur de cette campagne nationale. Plus d'1 300 000 personnes en insécurité alimentaire modérée et sévère devraient être touchées. À noter que le plan de riposte à l'insécurité alimentaire a été approuvé lors de la 17e Conseil national de sécurité alimentaire. Son coût a été évalué à 23 milliards de francs CFA. Colonel Assimi Goïta a saisi l'occasion pour remercier les partenaires du pays pour leur accompagnement dans le processus de développement.
Sur un autre sujet, 6 morts et des dégâts matériels, c'est le bilan d'une attaque survenue hier lundi à Kourou dans la commune de Dourou, cercle de Bandiangara. Selon des sources locales, les assaillants sont venus à pied. Les habitants se disent être préoccupés par la situation qui prévaut dans la localité. Les détails avec Adama Amadou Haïdara.
Selon des sources locales, l'attaque a eu lieu dans la matinée du lundi. Les assaillants, plusieurs dizaines, ont fait leur entrée dans le village de Kourou à pied après avoir gardé leur moto près de la falaise, indiquent les mêmes sources. Bilan, 6 morts, des bétails emportés et d'importants dégâts matériels enregistrés. Toujours dans la région de Mopti, des zones restent fragilisées par l'insécurité. Le village de Dinangourou dans le cercle de Kourou est assiégé par des hommes armés depuis 2 mois. Les habitants privés de tout mouvement en dehors du village lancent un cri de cœur aux autorités. Au même moment, dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, 2 administrateurs civils maliens pris en otage par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans demandent l'indulgence des autorités pour leur libération. Il s'agit du sous-préfet de Farako, enlevé en 2019, et le préfet de Gourmararous, enlevé en 2020.
3000 observateurs de court terme et 75 observateurs à long terme seront formés et déployés sur terrain pour constater le déroulement des prochaines élections au Mali. Cette annonce a été faite ce matin par la Synergie 22 des organisations de la société civile. C'était lors du lancement de la mission d'observation des élections au Mali, modèle Mali, à la Maison de la Presse à Bamako. Selon les organisateurs, l'objectif est de rendre compte du déroulement de chaque phase du processus électoral des prochaines élections au Mali, à savoir le référendum, la présidentielle et les législatives. La mission est financée par l'Union européenne à près de 2300 millions de francs CFA. Aïssata Diarra.
Cette opération permettra de renforcer la transparence et la confiance des Maliens sur les scrutins selon les responsables de la Synergie 22. L'opération va s'étendre du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, ajoute-t-il. Dr Ibrahima Sango, président de l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance.
Les observateurs à long terme au niveau national sont constitués de 10 personnes qu'on appelle les superviseurs nationaux. Et notre présence sur le terrain, c'est 75 observateurs à long terme au niveau des régions, Maintenant, la deuxième catégorie d'observateurs à long terme, c'est les coordinateurs régionaux. La troisième catégorie, c'est les coordinateurs des 49 CERF plus les 6 communes du district de Bamako.
La mission concerne la phase préélectorale pendant les élections et la période post-électorale des élections au Mali, nous explique Dr Ibrahima Sango.
Nous allons observer toutes les phases du processus électoral. L'observation préélectorale, la révision des listes électorales, l'enregistrement des candidatures, la campagne électorale. Et pendant les élections aussi, nous avons observé la phase électorale. Et nous allons mettre en place la série de veille électorale. Et nous allons aussi démarcher toutes les parties prenantes, les acteurs étatiques et non étatiques, les partis politiques.
La Synergie 22 et 15 observateurs à long terme seront recrutés au sein de ces organisations. Les 3000 autres seront issus de l'ensemble du pays.
Diotamani, financé par le gouvernement du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
À présent, un tour en région, plus de 32 millions de francs CFA, c'est le coût de réalisation d'un jardin d'enfants au quartier Plateau de Koulikoro. La première pierre a été posée hier par le maire de la commune urbaine. Le futur établissement comprend 3 classes, une direction, un magasin, un aire de jeu et la clôture. Il est entièrement financé par le contingent espagnol de l'EITM. Le même jour, un forage à motricité humaine sur le même site a été financé. C'est également par le contingent espagnol à hauteur de 7 250 000 francs CFA. Nous recevons à présent Sekou Gadji Ouédigo pour le Grand Dialogue. Bonsoir Sékou, quel est le thème du Grand Dialogue d'aujourd'hui?
Bonsoir Amsitou Touré, dans le Grand Dialogue d'aujourd'hui, nous parlons du mandat d'arrêt émis contre Karim Keïta, ancien député et fils de l'ancien président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Pour en parler, nos invités sont Agui Boubouaré, président de la Commission nationale des droits de l'homme, Mohamed Mamata Touré de l'association Ankomali de la société civile et Balan Diakité, politologue chercheur.
Merci Sékou et bon débat. Vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site web au www.studiotamani.org ou en appelant gratuitement sur la plateforme Viamo au 37 321. C'est la fin de ce journal, mais restez à l'écoute. Tout juste après le spot, la question A.
Numéro vert du programme alimentaire mondial, PAM. Informez-vous, réagissez, témoignez sur l'assistance alimentaire et nutritionnelle du PAM. Le numéro vert du PAM est un moyen pour toutes les communautés d'appeler pour remonter des informations ou des doléances, poser des questions sur tous nos programmes et services.
Qui peut appeler?
Tout le monde, sans aucune discrimination. Hommes, femmes, jeunes, vieillards.
Pourquoi devons-nous appeler au numéro vert?
Les populations que servent le PAM et ses partenaires sont au centre de leurs préoccupations. Il est important qu'elles puissent s'exprimer et donner leur avis sur le type d'assistance, la qualité, les modalités, les lieux, etc. Quel que soit son avis, sa doléance ou son inquiétude, la personne aura toujours l'assistance à laquelle elle a droit.
Comment fonctionne le numéro vert?
Le numéro vert peut être appelé de partout au Mali sur les réseaux Orange ou Malitel. Vous pouvez appeler ou envoyer un message au 80 00 55 67 tous les jours de 8h à 23h. Nos opérateurs parlent plusieurs langues locales. Les conversations sont gratuites et confidentielles.
Et si je n'ai pas accès au téléphone ou si je n'ai pas de réseau?
Ce n'est pas un problème. Vous pouvez toujours exprimer votre avis au travers des partenaires, des agents du PAM ou des comités de gestion de plaintes au sein de votre communauté. Donner son avis sur l'assistance humanitaire est un droit. Profitez-en.
Après l'annonce du syndicat des enseignants signataires du 15 octobre 2016 de boycotter les examens de fin d'année et la rentrée scolaire 2021-2022, l'association des élèves et étudiants du Mali prévoit aussi d'aller en grève selon certaines sources. L'association des parents d'élèves de son côté pense que ces deux regroupements doivent surtout tenir compte de la situation actuelle du Mali. Daouda Sako est le secrétaire général adjoint de l'association des parents d'élèves et étudiants du Mali. Il répond aux questions de Mamadou Samasekou.
Nous sommes obligés de prendre très très au sérieux ces menaces-là. Bien longtemps, notre école a toujours connu des situations menaçantes pour l'avenir de nos enfants. Si ça perdure, nous ne pouvons pas le cautionner. Quand l'État se trouve dans des difficultés, comme le connaissons aujourd'hui, chaque citoyen doit contribuer pour que vraiment l'État s'en sorte. Moi, je crois que les enseignants, bon, bien sûr, ils ont eu des acquis, ils ne veulent pas les mettre. Il faut dire que l'avenir du pays, ça implique tout le monde, ça intéresse tout le monde. Et il va de soi que tout le monde s'y implique. Nous avons connu une période difficile, je me rappelle, les années 78. Nous faisons 3 mois, 4 mois sans salaire. Donc on n'abandonnait pas l'école, on n'abandonnait pas les enfants. Et la qualité de l'enseignement était impeccable. On se sacrifiait pour ces enfants. Les diplômes maliens étaient des diplômes primés dans l'Afrique de l'Ouest.
Est-ce que le développement de l'éducation ne doit pas considérer ces revendications du syndicat?
Bon, à propos de l'article 39, je sais. Mais moi, je crois vraiment, il faut que le syndicat voit dans quel fossé le pays se trouve. Tout Malien aujourd'hui est dans une situation difficile. Je sais que les anciens ont des acquis. Ils ont eu des acquis à travers une longue lutte. Mais quand le pays est en difficulté, il faut changer le fusil d'épaule. Moi, c'est le conseil que je donne.
Est-ce qu'il n'y a pas même risque de revivre le scénario de l'année scolaire passée?
C'est sûr, c'est certain, mais le terrain est bien préparé pour ça. Parce que le gouvernement veut uniformiser les grilles. Le syndicat national des travailleurs du Mali y est favorable. Et beaucoup d'autres y sont favorables. Il faut accepter de faire confiance.
Et oui. Si ces menaces venaient à être exécutées, qu'envisagent les parents d'élèves?
Le plus souvent, les ministres en charge de l'éducation nous mettent en mission de conciliation auprès des syndicats. Quand même, on ne m'a pas fait note que la fédération doit aller à la rencontre des syndicats. Donc on les a toujours rencontrés. Et je sais que nous allons les rencontrer pour voir vraiment dans quelle mesure vraiment on peut un peu adoucir les positions pour que vraiment on puisse sauver l'école. Parce qu'il ne s'agit pas maintenant de sauver une année, il faut sauver l'école malienne. C'est ça notre objectif. C'est pour en dire que le métier d'enseignant est un sacerdoce. Personne ne peut payer un enseignant si ce n'est Dieu.
Il y a l'AIM qui menace d'aller en grève. N'est-ce pas là un autre souci en gestation?
Mais il va de soi que ça va aggraver la situation, c'est sûr. C'est pourquoi le fonds scolaire est dans une situation insupportable. Tout le monde s'agite. Alors qu'on peut vraiment trouver une solution à des choses comme ça. Il faut faire la part des choses pour que nous ne nous décourageons pas. Parce que quand la case brûle, il faut se munir d'un seau pour l'éteindre. Mais il ne faut pas amener encore le feu à quelque chose qui brûle. C'est un conseil que je donne et aux enseignants et aux étudiants.